18h45 que je vais procéder à l'appel. Monsieur Ayosa Fabrice. Madame Amaya Irios est absente. Donne procuration à monsieur Grappé Jean-Louis. Madame Bonifaci Sylvie.
Présent.
Monsieur Bouc Philippe.
Présent.
Madame Caligari Virginie.
Présent.
Monsieur Carpentras Henri.
Présent.
Madame Côté-Soto Sophie.
Présente.
Monsieur Defès Jean-Marc, absent. Monsieur Pogère, présent. Madame Fraisse Alexandrine, absente. Monsieur Jean-Louis Grappin.
Présent.
Monsieur Garinos Jean-Marc.
Présent.
Madame Amère Laurence.
Présent.
Madame Hermitan Tamara.
Présent.
Madame Carbrat Isabelle.
Présent.
Monsieur Jean-Pierre Lambertin.
Présent.
Monsieur Midieré Gérard.
Présent.
Monsieur Morel Stéphane.
Présent.
Monsieur Paré Franck, absent, donne pouvoir à Césarine Sauvadon. Monsieur Robin Christophe.
Présent.
Monsieur Sardo Nicolas. Il devra arriver à la bourre. Madame Sauvade Sandrine.
Présent.
Madame Sauvadon Césarine.
Présent.
Madame Zbati Samira.
Présente.
Madame Soleilla Kaline. Absente, excusée. Madame Souveton Anne-Marie.
Présente.
Madame Zandrini Mercedes.
Présente.
Élection du secrétaire de séance, je propose Madame Tamara Hermitan. Y a-t-il des votes contre? Monsieur Sardou arrive à la première question. Y a-t-il des votes contre? Abstention. Vote à l'unanimité, je vous remercie. Approbation du procès verbal de la séance du 20 février 2023. Y a-t-il des remarques? Aucune. Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité, je vous remercie. Débat d'orientation budgétaire année 2023 pour la commune de La Palue. Monsieur Jean-Marc Garinos, on vous écoute.
Bonjour à tous, merci monsieur le maire. Donc pour commencer notre débat, on va commencer par parler de l'exercice 2022, tout simplement pour prendre la situation telle qu'elle est en début d'année. Donc pour la section de fonctionnement, nous avons un excédent sur l'année, donc hors excédent reporté, qui s'élève à 77 835,46 €. Donc ça, c'est favorable. C'est la première fois depuis 2014 que nous avons un excédent sur l'année, un excédent réel sur l'exercice comptable. Donc ça, c'était important de le souligner. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire également sur la section de fonctionnement, c'est qu'effectivement, nous avons bien rétabli les recettes réelles de fonctionnement qui étaient plutôt en baisse ces dernières années. Alors, pourquoi on va rappeler que nous avions une DSC encore il y a deux ans, qui s'est en 2021, qui s'élevait à près de 394 000 euros, et qu'en 2022, nous avions zéro. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons réussi à rétablir un petit peu nos recettes de fonctionnement, nous avons rétabli un petit peu leur niveau. Et nous avons surtout continué à maîtriser nos dépenses de fonctionnement. Et ça, c'était un petit peu le challenge que nous nous sommes donné depuis 2020 et que nous arrivons à remplir depuis 3 ans. Donc ça, c'est une très bonne chose. Mais il nous reste beaucoup de travail à faire parce que la situation est quand même toujours très délicate. Voilà. Donc, en ce qui concerne donc justement les impôts, le chapitre 73, il est en baisse d'environ 89 000 euros par rapport à 2021, mais la différence elle est due au fait qu'il n'y a plus les 394 000 euros de DSC. Donc en fait on est plutôt en progression, ce qui est une très bonne chose sur ce chapitre-là. Pour les dotations, on avait prévu un budget de 390 000 euros, et on a encaissé 433 000 euros. Donc là, effectivement, on a également une petite hausse qui est principalement due à dotation qu'on n'attendait pas et qui est arrivée d'une manière un peu plus élevée qu'on l'espérait. Voilà. Donc, au niveau des dépenses, au chapitre 011, donc là, on est plutôt bien, puisque on avait prévu, je suis perdu dans mes feuilles, ça y est, je reviens dessus, c'est bon. Au chapitre 011, donc nous étions, nous sommes cette année à 568 000 euros, donc l'année dernière on était à 582 000 euros, et en 2020 726 000, 2019 736 000. C'est là où je vous dis que nous arrivons à maîtriser nos charges de générales de fonctionnement. Donc ça, il faut qu'on continue à le faire, mais c'est très bien d'avoir réussi déjà à les stabiliser et à les baisser. Pour les charges de personnel, on est 1 288 000, donc c'est un petit peu moins que ce qu'on avait en 2021, mais bon, on ne remplace toujours pas les départs à la retraite, on fait le maximum pour dépenser le moins possible, hein. Et le personnel joue le jeu également, là aussi, hein, on a aussi cette chance-là, c'est que tout le monde participe, non seulement les élus, mais aussi les agents de la collectivité. Donc on arrive à bien maîtriser ces dépenses-là. Voilà, donc ça c'est les choses positives que l'on peut évoquer de l'exercice 2022. En ce qui concerne les excédents, donc là je vous ai dit que cette année on avait 77 000 euros d'excédents sur l'année. Alors le dernier excédent que nous avions sur la commune de La Palue, il date de 2013. Alors bien sûr je parle toujours de l'excédent que l'on arrive à générer sans dotation de solidarité communautaire qui était versée par l'Interco, parce que pendant des années l'Interco avait versé une dotation en fonctionnement et aujourd'hui l'Interco n'a plus les moyens de le faire. Donc il faut à tout prix qu'on arrive à s'en sortir tout seul, mais c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire et pour l'instant ça se passe plutôt bien. Alors pendant tout le mandat 2014-2019, la PALU a vécu au-dessus de ses moyens et a donc fragilisé de manière substantielle les finances communales. Comme nous l'a bien expliqué en réunion publique Christian Gattegno du cabinet KPMG. Il est donc nécessaire de poursuivre la maîtrise de nos dépenses de fonctionnement, la limitation des investissements avec malheureusement le report d'une partie des projets de notre programme. En effet, nous ne dégageons pas suffisamment de marge d'autofinancement sans la DSC versée par la Comcom. Aujourd'hui, notre intercommunalité doit se recentrer sur l'exercice de ses compétences propres, des compétences que nous lui avons transférées, et plus particulièrement sur sa compétence économique afin d'attirer et d'implanter des entreprises dans les zones d'activité communautaire. Bien entendu, les recettes fiscales générées par ces installations d'entreprises ne viendront améliorer les ressources communautaires que dans les prochaines années. Donc nous avons été contraints d'augmenter la fiscalité communale en 2022 afin de tendre vers un rétablissement de nos comptes et d'offrir les meilleurs services possibles à nos habitants. Voilà. Pour ce qui est des investissements, donc vous avez la liste de ce qui a été fait et vous avez également la liste des restes à réaliser dans le document. Donc on ne va pas passer à ça parce qu'on a le compte administratif au prochain conseil municipal, donc on ne va pas rentrer dans ce détail-là. On va juste prendre page 19, la balance générale. Alors elle est provisoire, maintenant les comptes sont arrêtés, hein, sont définitivement arrêtés. Donc, on a une balance générale avec un reste en caisse, si vous voulez, de 654 783,31 euros. Donc, c'est bien, mais on avait un peu plus de 700 000 euros fin 2021. Donc, on a quand même dû puiser 50 000 euros dans nos réserves. Mais bon, cela, c'est principalement sur l'investissement que ça repose, hein. Donc on a mis un petit peu d'argent en investissement, mais c'est normal. L'évolution de la dette. Alors au 1er janvier 2023, l'encours de la dette de la commune de La Palue est de 2 208 000, soit 563 euros par habitant. Donc l'annuité de la dette 2023 est de 188 000 euros, et la dette de la ville est composée en totalité d'emprunts à taux fixe. Donc, vu la situation financière, aucun recours à l'emprunt n'est possible. comme on est toujours trop juste en termes de fonctionnement, aucune banque ne nous prête d'argent. Dans l'immédiat, voilà, pour ce mandat-là d'ailleurs, ce n'est pas la peine de l'espérer, on n'y arrivera pas. Donc la situation financière de la commune a rendu impossible un refinancement de notre dette par les partenaires financiers. Effectivement, on avait essayé en début de mandat, mais ils nous ont dit qu'effectivement, vu la situation, ils ne peuvent pas. Alors, le dernier mandat 2014-2019 a non seulement plongé la commune dans des difficultés financières au quotidien, mais a également endetté d'une manière particulièrement grave une collectivité pauvre comme la nôtre. Nous ne pouvons plus emprunter pour nos investissements. L'analyse financière de nos comptes montre que nous sommes dans l'impossibilité de rembourser plus que nous ne le faisons qu'aujourd'hui. Entre 2014 et 2019, l'encours de la dette a augmenté de 950 000 euros. Deux emprunts, un de 200 000 en 2015 pour les écoles et un autre de 750 000 pour divers travaux. L'encours de la dette en 2014 était de 2 134 000. La dette a donc augmenté de pratiquement 50% sous le mandat 2014-2019. Donc ça, c'était important à souligner parce qu'on paye toujours cette gestion-là. Et on la payera tout le mandat. Voilà. Alors, les orientations financières 2023 pour le budget général. Alors, on vous présente un petit peu le potentiel fiscal, le potentiel financier. Alors, malheureusement, nous sommes toujours les plus pauvres des 5 communes de l'intercommunalité. Voilà, donc ça c'est un petit peu dommage, mais c'est comme ça, c'est la situation que nous avons. Voilà, les 4 communes d'ailleurs. Voilà, ok. On vous parle un peu de la communauté de communes pour vous rappeler quelles sont les compétences qu'elle exerce aujourd'hui. Donc c'est un petit peu un rappel des statuts de l'Interco. Où a été mis à jour l'attribution de compensation qui est de 119 525 pour 2023. Bon, ça n'a pas beaucoup évolué par rapport aux années précédentes, hein, mais bon, voilà, ça a été mis à jour quand même. Alors là, bien sûr, la DSC qui était en 2022 et 2023, elle est à zéro. 2023, la Comcom n'aura plus les moyens de verser. Et je pense que jusqu'à la fin du mandat non plus, elle ne le pourra pas. Donc il faut vraiment qu'on essaye de s'en sortir par nous-mêmes. C'est ce que nous faisons. Hein. Ensuite, on vous donne quelques informations sur les services communs que nous avons avec l'Interco. Donc ça, c'est beaucoup d'informations. On vous donne les grandes lignes des finances de la communauté de communes aussi. Voilà, qui a un résultat de clôture de 1 695 000 euros. Bon, donc pour nous, pour le 2023, les contraintes à prendre en compte, c'est la réduction de l'autonomie fiscale des communes due à la refonte de la fiscalité locale, ben notamment la suppression de la taxe d'habitation. Donc même si elle est compensée, elle est beaucoup moins dynamique qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que la compensation, elle est figée, alors que la dynamique des bases, on l'avait avant, donc on l'a plus. Ça, c'est une perte d'argent. Le plafonnement des dotations de l'État, donc ça, elle continue. Le déséquilibre du fonctionnement des services communaux entre 2014 et 2019, donc ça, c'est le fait qu'effectivement, on dépensait plus qu'on avait. Donc là, on est obligé, nous, de réduire un maximum des dépenses pour essayer de réduire la situation. L'intercommunalité est confrontée à de multiples obligations financières et des mesures fiscales mises en place par les lois de finances 2022 et 2023, notamment la suppression de la CVAE. Ça, c'est une perte de ressources fiscales énorme pour l'Interco, qui sera effectivement compensée par la TVA, mais c'est comme pour la TH pour nous. Ils vont perdre de l'argent, c'est certain. Et l'impossibilité pour la CCRLP de verser une dotation de solidarité communautaire vu la situation qu'elle rencontre. Alors, les projections fiscales et financières. Maîtrise de l'évolution des frais de personnel en prenant en compte l'augmentation du point d'indice au 1/7/2022, les avancements d'échelons et de grades. Voilà, donc ça, on est tenu. Assurer un service public de qualité tout en maîtrisant les coûts. Donc, on continue à remplir nos missions mais en faisant attention à nos dépenses. Améliorer le quotidien des Lapalussiens à la hauteur des moyens de la commune, sans emprunt et en recherchant le maximum d'aide institutionnelle. Étudier la possibilité d'augmenter les produits communaux, exemple rénover notre parc immobilier pour le mettre en location et vendre des biens immobiliers. Donc au budget 2023, c'est ce que nous prévoyons de faire. Travailler avec la CCRLP pour permettre le développement des services offerts à la population lapalussienne et à travers les zones d'activité économique, la création d'emplois et de nouvelles recettes fiscales. Donc ça, on espère que dans les prochaines années, on en aura. Alors, on a fait un projet de budget, hein, mais qui est effectivement relativement succinct pour l'instant. Hein. Nous avons quand même des bonnes nouvelles. Nous avons eu la notification des bases. Donc l'état 1259 nous a été donné par l'État. Donc les nouvelles bases pour 2023 pour nous ont augmenté. Donc la taxe foncière, si vous voulez être clair, taxe foncière sur les propriétés bâties, on n'a plus que deux taxes, les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Alors, les bases prévisionnelles du foncier bâti ont augmenté de 10,95%. Alors, elles n'ont pas augmenté de 10,95% parce que l'État a décidé d'augmenter les bases. Non, les bases, il a décidé, l'État, de les augmenter d'un peu plus de 7%. Mais nous avons une augmentation physique, c'est-à-dire qu'on a eu des lotissements, donc il y a de nouvelles impositions qui sont effectivement dans ces 10,95%. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. C'est aussi ce qui fait qu'en 2022, nous avons eu des recettes un petit peu supplémentaires, puisqu'on a eu des rôles supplémentaires. Donc effectivement, des rôles que l'État n'avait pas pu générer pour le 1er janvier. Vous savez que les gens payent leurs impôts à la date du 1er janvier. Donc les assujettissements ont été faits un petit peu plus tard dans l'année. Donc on a eu des régularisations dès 2022. Mais là, pour 2023, c'est sûr, nous avons ces nouvelles bases pour 2023. Et ça, c'est important à savoir. Par contre, les bases fiscales pour les propriétés non bâties, elles n'ont augmenté que de 6,62%. Voilà. Maintenant, le produit est quand même beaucoup moins important. Hein. Ça, c'est pas une somme très significative. Mais ça fait rien. Ça augmente aussi les bases de 6,62%. Voilà, donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur les recettes. Donc pour les dépenses, alors pareil, c'est un projet de budget sur lequel on va encore travailler pour essayer de le finaliser un maximum, parce qu'encore aujourd'hui, on a des interrogations sur nos factures d'électricité. Donc vous savez qu'on a malheureusement, comme malheureusement toutes les entreprises de France, qu'elles soient publiques ou privées, on a des hausses importantes de nos factures d'électricité. Et là, il va falloir qu'on revoie ça très précisément avec la Comcom, puisqu'on a bien eu un marché avec eux, pour voir effectivement quelle est la hausse réelle que nous allons avoir sur 2023. Aujourd'hui, ce n'est pas aussi clair que ça. Malgré les aides de l'État, c'est vrai que l'État va soutenir un peu les collectivités, mais malgré tout, pour nous qui sommes déjà pauvres, ça va quand même être des charges importantes. Voilà, donc ça c'est un petit peu l'inconnu que nous devrions avoir, enfin on devra avoir plus d'informations dans les jours qui viennent. Voilà. Voilà, au niveau des frais de personnel, on vous indique un petit peu les obligations que nous avons sur l'exercice 2023. On vous donne la liste du personnel. Ensuite, on a effectivement la liste des indemnités, tout ce qui est versé au niveau de la commune. Enfin, vous avez un petit peu toutes les informations utiles dans le document. Pour la section d'investissement, pareil, on vous donne la liste de ce qu'on aimerait faire, mais il faut qu'on termine la préparation budgétaire. Mais c'est vraiment le cadre de ce qu'on souhaiterait mettre au budget 2023. J'espère qu'on pourra tout mettre. Pour les recettes d'investissement, donc nous avons encore la chance d'avoir des fonds de concours au sein de l'Interco, que nous n'avons pas encore épuisés. Voilà, on va donc pouvoir acquérir des véhicules ou du mobilier, etc., faire des travaux de sécurisation, de voirie, mais qui seront financés en partie par l'intercommunalité. Donc ça, c'est quand même intéressant d'avoir encore de l'argent à percevoir, donc ça, c'est bien. Et bien sûr, il y a aussi un petit peu de DETR sur une opération ou deux, et bien sûr, les subventions du département, le CDST. Voilà.
Alors. Vous avez fini, M. Gamelas. Très bien, merci. Le débat est ouvert. Qui veut prendre la parole? Monsieur Rappin.
Je vous remercie, mesdames, messieurs, bonsoir. Votre propos, M. Garinos, il est constant depuis que vous êtes installé. Vous n'êtes responsable de rien. Le responsable est toujours quelqu'un d'autre. C'est l'Interco, c'est la municipalité précédente. Si je reprends l'exemple de la dette, vous avez prêté l'emprunt de 750 000 euros qu'on avait souscrit en 2019 pour venir faire différents travaux. Alors vous avez évoqué aussi celui de 200 000 euros. On se rappellera que celui de 200 000 euros a été repris par l'Interco au regard du transfert de la compétence d'établissement scolaire. Donc celui-là n'a pas lieu d'être et il ne figure pas dans la table. Quand votre propos est écrit et aussi oral, vient dire que la municipalité précédente serait seule responsable du taux d'endettement. Et je crois que vous oubliez que M. Lambertin, dans les dernières années de son mandat, a généré une dette d'environ 1,9 million. Notamment 1 million qui avait servi à transformer le parc Julian en un nouveau parc Julian et déjà aménager les premiers terrains de boule. Si je reprends vos propos et le corroborer par le tableau qui est en page 20, l'annuité de la dette en 2023 est effectivement de 188 000 euros. Si vous additionnez l'ensemble des emprunts, des annuités liées à des emprunts qui ont été souscrits avant 2014, il représente 81% de cette dette. Alors, je veux bien qu'on nous accuse de tous les maux, mais pour le coup, la proportion n'est sans doute pas celle que vous indiquez et n'est sans doute pas le reflet d'un réalité. Alors, vous avez également cité le cabinet KPMG. J'ai réécouté l'enregistrement de leur intervention et je vous invite à le refaire, monsieur Garinos. Et vous entendrez notamment le communicant de KPMG qui affirmait que les difficultés financières que la commune de La Palue connaissait sont structurelles et qu'elles dataient bien avant 2014. Une des solutions aurait sans doute été que la mandature précédente augmente les impôts. Vous avez sans doute oublié un petit peu les propos de KPMG, ce qu'il évoque au travers de ce qui s'est passé avant 2014. On n'a pas fait ce choix-là d'augmenter les impôts. On est allé chercher des recettes ailleurs. Elles s'appellent notamment l'autorisation de solidarité communautaire. Pour vous, c'est un gros mot, puisque vous refusez à le prendre en compte dans la totalité des recettes. Et pourtant, c'est bien une recette, de la même façon que vous intégrez bien comme recette l'augmentation des impositions. Vous avez voulu pointer, alors le graphique, on le trouvait déjà l'année dernière, on le retrouve cette année, celui de la page 16, où figurent deux courbes, une des dépenses réelles de fonctionnement en rouge et puis une des recettes en bleu. Vous avez pointé l'augmentation des dépenses réelles de fonctionnement entre 2014 et notamment 2017. Je ne le conteste pas. Sans doute rappeler à M. Fougère, Mme Souveton, les cinq autres élus qui figuraient aussi avec vous ou avec nous, qu'à cette époque-là, personne n'avait mis les moindres critiques quand on a mis en œuvre un certain nombre de services nouveaux. Et on peut se poser la question, ces 390 000 euros d'augmentation entre le niveau de dépenses 2014-2017, c'est quoi? C'est on a jeté de l'argent par les fenêtres ou on est allé mettre des services qui n'ont pas lieu d'être? Alors s'ils n'ont pas lieu d'être, il convient que vous les supprimiez, ou alors ils sont toujours en place et ils représentaient un intérêt certain. on permettrait de rapidement balayer un peu l'explication de ce différentiel de dépenses. Le premier, c'est pas de votre fait, c'est pas d'une autre, c'était celui de l'État, hein, au travers du fonds de péréquation intercommunale, le FPIC, où en 2013, 2014, 2015, la commune de La Palue n'était pas imposée. On se retrouve en 2016 de devoir sortir plus de 187 000, montants qui se sont reproduits par la suite. À eux seuls, c'est 187, c'est près de la moitié de l'augmentation des dépenses entre 2014 et 2017. Si KPMG avait une solution pour venir annuler ça, je la prends. Je crois qu'il n'y en a pas. Vous rappelez qu'on a, sur cette partie du mandat, recruté un policier municipal supplémentaire. C'est près de 40 000 euros. Je ne crois pas qu'à un moment donné, vous ayez dit cette dépense n'est pas utile et je veux venir faire marche arrière. Les 40 000 euros, ils ont été mis en œuvre sur cette partie du mandat et on les a appliqués, vous les appliquez. On est venu aussi mettre en œuvre un fonctionnement du centre de loisirs pendant toutes les vacances scolaires, quand avant 2014 il fonctionnait que pendant les grandes vacances. C'est presque plus de 50 000 euros. Ça s'est traduit par la titularisation du personnel. Je crois que là aussi, c'est pas, personne n'a émis l'hypothèse ou la volonté de faire marche arrière. Et je crois que récemment, le travail de l'équipe et le profil des agents qui l'occupent ont été encore rappelés. C'est aussi sur cette période, 2017, qu'a été mis en place le résine. À l'époque, c'est près de 64 000 euros de dépenses. Alors, si on n'aurait pas, enfin, si je reprends, hein, mon leitmotiv, hein, on a augmenté nos dépenses, on n'aurait pas dû recruter la police municipale, on n'aurait pas dû faire fonctionner le centre de loisirs pendant toutes les vacances scolaires, on aurait dû mettre en place le résine. On fait un petit zoom sur les fournitures scolaires. En 2016, c'est presque 10 000 euros de plus que ce qui s'est passé en 1993. C'est ce choix-là que vous avez pu faire aujourd'hui de le resserrer. C'est à vous qui en êtes les gestionnaires. Hein, c'est qu'en 2022, par rapport à 2016, le montant de ces dotations versées aux écoles sont inférieurs de 10 000 euros. S'agissant des fêtes et cérémonies, et je crois que M. Fogler, Mme Souton, c'était votre domaine de prédilection. En 2016, c'est 8 000 euros de plus qu'en 2013-2014. Si on l'a mis en œuvre, c'est que vous l'avez aussi partagé, vous avez souhaité qu'on puisse le mettre en œuvre. S'agissant des subventions aux associations, en 2016, c'est 22 000 euros de plus qui sont versés aux associations qu'en 2022. Je vous ai toujours suivi sur les montants des subventions. Voilà. On pourrait en ressortir d'autres, mais on veut, si on veut trouver une justification de l'augmentation des dépenses entre qui arrive à un pic en 2017, il est là. Par la suite, dépenses diminuent, vous l'avez expliqué, M. Garinos, au travers des transferts de compétences. On garde aussi à l'esprit, et il s'agit de regarder les deux courbes, c'est qu'à tout moment, les recettes de fonctionnement ont été supérieures aux dépenses. Dans ces recettes de fonctionnement, il y a effectivement la dotation de solidarité communautaire. Et que s'il n'y avait pas eu de dotation de solidarité communautaire, on n'aurait peut-être pas recruté de policiers, on n'aurait peut-être pas mis de résine. C'est ce choix-là, il a été partagé pour tout le monde. Alors, on peut toujours avoir des regrets, des remords, mais je pense qu'à un moment donné, il faut peut-être assumer ce que l'on a pu faire ou le fait de dire qu'on n'était pas d'accord. Si on fait le zoom sur l'exercice 2017, entre la différence entre les recettes de fonctionnement et les dépenses réelles, c'est près de 350 000 euros. C'est cet excédent. Je vous rappelle que dernier compte administratif 2019, hein, avant que vous n'arriviez en responsabilité, c'est près de 1 million d'euros en excédent global de clôture. Alors, on peut dire qu'on a obéré la gestion de la ville. Ça permettrait de faire gré de ce montant-là qui figurait. De la même façon que les fonds de concours à hauteur de 500 000 euros, ils avaient été à votre disposition, la nouvelle mandature, sans qu'on soit venu taper dedans. Et si je m'intéresse un petit peu à la dotation de solidarité communautaire, telle qu'elle a été perçue de 2017 à 2019, je vous invite à comparer ces montants avec ce qui a été viré à la section d'investissement, 73% du montant de la DSC a servi à alimenter la section d'investissement. C'est ce qui a permis de réaliser les nombreux aménagements. Et je crois que monsieur le maire et d'autres de votre équipe, hein, vous vouliez aussi vous en arroger la paternité. Je ne vous la refuse pas. Vous faisiez partie de l'équipe. pour les bonnes choses comme pour les moins bonnes. S'agissant de la DSC, M. le maire, je crois que la semaine dernière, vous avez pu échanger avec les autres maires de la commune, avec Madame la préfète et ses services. Hein, et vous avez cru lui faire part du fait que la commune de La Palue ne percevait pas de DSC. Vous savez la réponse qu'elle vous a faite. Elle vous a aussi rappelé tous les mécanismes de coopération, de mutualisation qui s'est tissé entre CCRLP et la commune. Et je vous renvoie vers les fonds de concours que vous n'avez pas mobilisés jusqu'en juin 2022. Vous veniez délibérer pour en rallonger la durée. Vous avez fait état de vos efforts de maîtriser les dépenses de fonctionnement. En 2018, les dépenses réelles étaient de 2,5 millions. Elles sont de 2,433 000 en 2022. Je salue votre effort qui est fait là-dessus. On intègre aussi 2022, pas d'hiver froid, et qu'en fonction des intempéries, ça peut faire plus de 60, plus 70 000. Grosso modo, on va pouvoir dire qu'on est sur des niveaux de dépenses constants. Là où mon inquiétude se retrouve, c'est s'agissant des dépenses de personnel. On avait le niveau le plus bas de dépenses de personnel en 2010. On se retrouve avec la difficulté qui a été la vôtre en 2021, où les dépenses de personnel augmentent de 50 000 euros avant qu'elles rediminuent de nouveau. Ce que je crains, et vous l'avez pointé dans votre rapport, c'est que la commune de La Palue va se retrouver avec l'obligation de rémunérer un nouveau cadre A en 2023, de manière indirecte ou de manière indirecte. C'est trois cadres A pour la collectivité, sans doute pas supportable. Dès lors, vos choix ils sont un petit peu drastiques en matière de gestion du personnel du chapitre 12. Hein, vous l'avez indiqué, on ne remplace pas l'agent du service administratif qui est parti en mutation. On ne remplace pas un agent technique qui est parti en retraite en 2022. J'ai mes inquiétudes, je crois qu'elles sont partagées par des lapaluciens, et il y en a encore un que je viens de croiser sur le parvis de la mairie, qui me faisait état de différentes choses, où nos agents sont dans la difficulté, dans la souffrance pour accomplir les missions qui sont les leurs. Qu'est-ce qui se passe avec un agent de moins? Je crois que ça va devenir mission impossible. On a bien compris, M. Garlinos, que les impôts locaux allaient augmenter encore près de 7% en 2023, vous permettrez de ne pas avoir la même analyse que vous, hein. Vous assimilez ça à une bonne nouvelle. Je laisse vous rapprocher des lapaluciens, quels qu'ils soient, mais tous les propriétaires fonciers seront concernés, qui verront leurs impôts augmenter de 7% dans un contexte qu'on n'a pas besoin de décrire supplémentaire. Est-ce que pour eux c'est une bonne nouvelle? Si c'est des prestations nouvelles qui sont en face, ou si on crée de nouveaux services, sans doute, si ce n'est pas le cas, je crois que ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Merci pour votre attention.
Merci, Garinos.
Alors, donc, je vais commencer à vous répondre, mais je vais commencer par la fin. Parce qu'effectivement, j'avais l'impression l'année dernière que vous n'aviez pas compris comment ça se passait, l'augmentation fiscale dans les communes. Effectivement, là, je comprends que vous ne savez pas. Donc, l'année dernière, vous nous avez dit qu'on a augmenté les impôts de 12%. En fait, nous avons, et nous l'assumons, augmenter les impôts, le taux communal, de 8%. Et effectivement, c'est l'État qui a augmenté les bases de 4%. Ce n'est pas nous qui l'avons décidé, c'est l'État. Et tous les ans, l'État fait pareil. Donc, cette année, l'État a décidé d'augmenter de 7%. Hein? Ce n'est toujours pas nous. Hein? D'ailleurs, cette année, on n'a pas parlé d'augmentation communale, d'augmentation du taux communal. On n'en parle pas. Donc, l'État a décidé d'augmenter 7%, mais comme nous avons des assujettis en plus, finalement l'augmentation elle va être de 10,95%. Donc, sans décision du conseil municipal de La Palue. C'est toujours l'État. L'État a régularisé les assujettis qui n'étaient pas facturés avant et a donné les 7% comme il donne à toute la France, 7% d'augmentation des bases fiscales. Et c'est tout. Bon, ça c'était C'était juste parce que ça me choque un peu, mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Ensuite, vous parlez du remboursement d'emprunt pour les écoles de 200 000 euros qui avait été fait au début du mandat en 2015, je crois. Alors effectivement, il a été transféré à l'Interco et à travers l'attribution de compensation, nous remboursons l'annuité tous les ans. Donc en fait, personne n'a fait de cadeau à personne. Nous continuons à payer cette dette. Ensuite, vous nous parlez de KPMG en disant que KPMG a dit que la commune était très bien gérée. Alors avant 2014, alors là je ne sais pas, c'est pour Jean-Pierre sans doute. Donc en fait, ils n'ont pas été chargés de voir les comptes avant 2014. Ils étaient chargés de voir les comptes entre 2014 et 2019. Donc ils n'ont pas regardé les comptes avant. Ce que nous on peut dire, c'est qu'effectivement les comptes avant étaient bien gérés, puisqu'ils n'étaient pas dans la situation que nous avons rencontrée quand nous sommes arrivés. Voilà, bon, ça c'est... Donc là, vous dites des bêtises, ou en tout cas, vous faites exprès de vous raconter des mensonges. Donc voilà, donc je suis désolé, c'est pas bien de mentir, hein. Voilà. Ensuite, vous nous avez parlé des fonds de concours. Alors effectivement, il nous reste plein de fonds de concours. Alors pour une commune comme la nôtre, effectivement, c'est plein de fonds de concours. Parce que à chaque fois qu'on demande un fonds de concours, il faut qu'on mette... On demande 1 euro de fonds de concours, il faut qu'on mette 1 euro. Mais comme on n'a pas de sous, eh ben on n'arrive pas à les utiliser. Donc on a demandé la prolongation des délais pour pouvoir les utiliser sur l'ensemble du mandat. Et on espère bien que sur les 3 dernières années de notre mandat, on pourra les utiliser intégralement. Voilà. Voilà. Donc ça c'est juste pour rectifier. Ah oui, le PM qu'on a recruté. Alors effectivement, ça c'était un engagement pris par notre maire et par la liste de sécuriser mieux notre ville. Ah ben, c'est ce que nous avons fait et nous l'avons assumé puisqu'aujourd'hui nous arrivons à maîtriser nos dépenses malgré cette embauche. Donc voilà, donc on gère, on maîtrise et on assume. Et ensuite, page 16, c'est bien parce que j'avais oublié de le lire, ça tombe bien. Pour la synthèse des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement, on peut constater que les dépenses réelles de fonctionnement sont stabilisées et que l'effort de maîtrise des dépenses s'avère payant. Donc ça, c'est notre effort commun. Je vous rappelle que le dérapage des finances communales entre 2014 et 2019 s'inscrit particulièrement dans notre fonctionnement quotidien. Donc, malgré les transferts de compétences opérés entre 2017 et 2018, aucune économie n'a été réalisée. Donc non seulement on a transféré des services, donc normalement on devait faire des économies, ah ben on a, au contraire, on a encore augmenté les charges de fonctionnement et les charges de personnel. Donc elles ont explosé, ces charges-là. Donc nous poursuivons donc cette maîtrise des charges dans les années à venir. On n'a pas le choix, il faut qu'on le fasse. Et pour les recettes réelles de fonctionnement, nous ne comptons plus sur le versement d'une DSC. Le redressement de nos finances ne pourra se faire qu'au niveau communal. Donc l'augmentation fiscale 2022 était nécessaire. Je le répète, c'était nécessaire. Et on l'a fait. On l'a assumé.
Quelqu'un veut prendre la parole ? Monsieur Grappin ?
Ça sera très court, mais je prendrai l'exemple de votre dernier propos, monsieur Garnier. Hein, vous indiquez que... au travers de votre phrase, hein, que sur la mandature 2014-2019, on a laissé tout augmenter. Je vous renvoie au chapitre, et qu'après les transferts de compétences, aucune économie n'a été générée. Je vous renvoie à votre tableau de la page 12, hein, le montant des charges de personnel en 2019, donc on est après que tous les transferts de compétences étaient opérés, et je vous laisse les comparer par rapport à 2014. Vous verrez si c'est une baisse ou une augmentation, mais si c'est pas une baisse, je ne sais pas de quoi on parle. S'agissant du policier municipal, je ne parlais pas du policier municipal que vous venez de recruter, mais bien celui qui avait été recruté sur la période 2016, hein, où de deux policiers, on est passé à 3. Je ne vous ai pas dit que les comptes avant 2013 étaient bien ou mal gérés. Je n'ai fait que reprendre la phrase de KPMG, je vous invite à l'écouter, qui dit que les problématiques de l'APAMU sont structurelles et datent d'avant 2014.
Et quelqu'un veut reprendre la parole ? Non, Jean-Marc ? C'est bon ? Pour clôturer. Oui.
Juste une chose, j'ai entendu quelque chose qui alors je sais pas, j'ai peut-être mal compris, mais qui est des propos. Ce qui m'a choqué, moi, c'est le personnel de la commune est en souffrance. De où vous tenez ça? Qu'est-ce qui vous permet de dire ça aujourd'hui? Pour rencontrer le personnel régulièrement, j'ai vu personne qui m'a dit qu'ils étaient en souffrance. Tout le monde, ils jouent le jeu, ils savent, ils connaissent la situation, ils participent à l'effort. On a réorganisé un petit peu, c'est vrai, les services, réorganiser la charge de travail, mais le mot souffrance me choque. Alors peut-être que c'est pas ce que vous vouliez dire ou j'ai mal compris.
Maintenant, je ne veux pas surtout enlever vos efforts ou ce que vous avez pu réussir à faire. Je vous fais simplement part d'échanges que j'ai avec les personnels. Certains des agents ne doivent pas vous dire la même chose que ce qu'ils me disent.
C'est dommage, parce qu'on pourrait faire quelque chose pour eux.
C'est vous qui êtes manette, c'est vous qui êtes responsable.
Ah oui, c'est pour ça que je suis étonné qu'à vous, on vienne parler de souffrance, et alors que moi, on n'en a jamais parlé.
Bien. Alors, monsieur Grappin, quand je vais chez mon banquier pour demander des sous, si il n'y a rien sur mon compte, automatiquement, il va me dire on ne peut rien faire. Ça, c'est logique. À l'époque, vous étiez adjoint aux finances, parce que vous avez répercuté par rapport à Mme Souffeton et moi-même. Quand vous demandez quelque chose, honnêtement, vous avez toujours dit oui. Je ne peux pas dire le contraire. Et vous ne pouvez pas dire le contraire. Chaque fois qu'on a eu besoin d'une enveloppe, vous avez dit oui. Monsieur Garinos, le nouvel adjoint aux finances, vu nos finances qui sont... commence à aller un peu mieux, mais quand on les a rencontrés en 2020, à chaque fois qu'on lui a demandé quelque chose, c'était pratiquement 80% sur 100, c'était non. Voilà. Parce qu'on n'a plus l'argent. On n'a plus l'argent. Et par rapport à ce qu'on explique depuis KPMG, l'a dit, on le répète depuis 2020, sans DSC, on ne peut pas s'en sortir. On ne pouvait pas s'en sortir. Maintenant, on commence à sortir la tête de l'eau. Il faut se dire quelque chose, c'est que à l'époque, c'était vous qui étiez adjoint aux finances, c'était vous qui aviez la main dessus. Ce qui se passe, c'est que vous auriez dû, pas nous alerter, mais gérer en sachant que si un jour nous n'avions pas de DSC, nous n'allions pas pouvoir nous en sortir. Vous savez très bien, puisqu'en plus sur le DOB, à l'époque, vous nous aviez mis, en 2020, quand on est arrivé, sur le DOB, effectivement, il y avait la DSC de marquer. C'est tout simplement. Et ça, ça aurait été marqué, ça aurait été dit, au moins, ça aurait été juste et ça aurait été franc. Voilà. Première chose. Par rapport à Madame la Préfète, alors, je vois que vous avez pas les micros à la CCRLP, mais vous avez des bons amis, ça, je m'inquiète pas là-dessus. Parce que normalement, c'est des réunions pas secrètes, mais des réunions plus ou moins confinées. D'ailleurs, il n'y avait même pas les vice-présidents ni M. Lambertin, ni les autres vice-présidents de la communauté de communes, puisqu'on n'était qu'avec la préfète, les DGS et les maires du territoire. Il en est juste ressorti ce que Madame la préfète m'avait écrit il y a peu de temps, et d'ailleurs je peux vous le faire, vous l'envoyer, où elle m'a dit ça serait bien que l'Interco vous donne une DSC. Monsieur André Autier est là pour le dire. Hélas, DSC, comme vous le savez, on ne l'aura pas cette année par rapport à la CVAE, ce qu'a expliqué M. Garinos. Et peut-être qu'un jour on l'aura, mais pour l'instant on est mal barré. Par rapport au PIC, ce que vous expliquiez aussi, à l'époque on ne le payait pas, c'est toujours une recette en plus à donner. Et le gros problème, c'est que avec le peu de moyens qu'on a, nous essayons de nous en sortir. Voilà. Et par contre, je tenais à remercier, puisque ici M. Garinos, M. André Autier et Mme Barrera pour le travail qu'ils ont effectué sur le DOB. Je vais finir par en vous expliquant que la situation financière de notre commune, comme je l'ai dit, commence à se stabiliser mais reste fragile, ça c'est sûr et certain. On peut constater que les dépenses réelles de fonctionnement, j'en reviens au mandat d'avant, parce qu'on parlait aussi on a été toujours d'accord avec vous. C'est normal parce qu'on était une majorité. Vous savez très bien comment ça fonctionne, la politique, M. Grappelli. Mais on a été contre sur certains points. Sur le parvis de la mairie, par ça, je crois que vous en souvenez.
Je n'ai pas entendu, mais...
On n'a pas voté contre, mais on avait été contre. D'ailleurs, on a eu un débat là-dessus, en majorité pure. Pas en conseil municipal, et on s'était fait pourrir la... Oui. Je ne vais pas être grossier. Et sur la rue des Raspas aussi, sur la place devant la boulangerie Chauvet. Mais quoi qu'il en soit, on était dans la majorité et nous avions voté pour. Ça, on peut l'admettre, on ne pourra pas nous le reprocher. Par contre, on peut constater que les dépenses réelles de
fonctionnement...
C'était les consignes, oui. Que les dépenses réelles de fonctionnement sont stabilisées et que l'effort de maîtrise des dépenses s'avère payant. Le dérapage des finances communales entre 2014 et 2019 s'inscrit particulièrement dans notre fonctionnement quotidien. Malgré les transferts de compétences opérés entre 2017 et 2019, aucune économie n'avait été réalisée, ce qu'a dit M. Garinos tout à l'heure. Au contraire, les charges en personnel de fonctionnement ont été augmentées. Nous poursuivrons donc cette maîtrise des charges dans les années à venir, notamment des frais de personnel et des charges à caractère général. Et on sera bientôt avec... Je recevrai tout le personnel et je leur demanderai le quoi qu'il y a. Concernant nos orientations 2023, comme l'a dit M. Garinos, nous avons pris en compte les contraintes suivantes. La réduction de l'autonomie fiscale des communes, notamment avec la suppression de la taxe d'habitation. Le plafonnement des dotations de l'État, le déséquilibre du fonctionnement des services communaux entre 2014 et 2019, l'impossibilité pour la CCRLP de verser une dotation de solidarité communautaire, l'évolution des tarifs de l'énergie face à laquelle nous avons mis en place des actions pour absorber ces hausses, l'évolution des charges de personnel, notamment avec l'augmentation du point d'indice, les évolutions de grades et d'échelons. Et ça, ça me tient à cœur parce que l'évolution de grades et d'échelons, c'est tout à fait logique, et qu'il y ait le point d'indice, bien entendu, c'est obligatoire, et c'est tout à fait logique pour remercier nos employés communaux, que ce soit dans l'administratif ou dans le technique. Nos projets restent donc modestes, ils sont à la hauteur de nos finances. Nous avons notamment l'acquisition de mobilier informatique pour les écoles, l'aménagement d'un espace pour professionnels de santé, l'acquisition d'un sismomètre, l'extension de la vidéoprotection, la mise en place et remplacement de logiciels, la continuité des travaux d'accessibilité, l'installation d'un paratonnerre, la rénovation de logements et la création de toilettes publiques automatiques. Puisqu'il y a beaucoup de gens qui nous le demandent. Et toujours dans ce souci de vouloir maintenir un service public de proximité, ce que nous avons mis dans le bulletin municipal, un dispositif de recueil pour les cartes nationales d'identité et les passeports seront installés en mairie. Ce projet ne nécessite pas de création d'emplois et une enveloppe budgétaire est allouée par l'État pour l'achat de mobilier. Concernant le matériel informatique, il est fourni par l'État directement. Et ça va être un bien pour nos administrés car c'est une grosse galère pour aller prendre rendez-vous dans les communes avoisinantes puisque c'est déjà surchargé par le nombre de rendez-vous qui sont pris. Donc c'est avec dynamisme que nous menons notre village. Car notre ambition est de servir nos Lapins du siècle avec les peu de moyens que nous avons. Une évolution de grade, oui, c'est pour tous les agents administratifs, police, technique, scolaire et animation. D'ailleurs, en parlant d'animation et d'ASEM, on leur a mis une prime qu'ils n'ont pas eu le mandat d'avant, si je ne me trompe pas. C'est bien ça, monsieur André Outy. Le débat est clos, nous passons à l'approbation de la convention de gestion des équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire reconnu d'intérêt communautaire entre la communauté de communes Rhône-Lès-Provence et la commune de la Palue. Madame Césarine Sauvadon.
Bonsoir. Le conseil municipal est appelé à délibérer sur le projet de convention de gestion des équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire reconnu d'intérêt communautaire entre la communauté de communes Rhône-Lès-Provence et la commune de la Palue. Vu la législation et la réglementation en cours, vu la délibération du conseil communautaire de la CCRLP du 13 mars 2018 définissant l'intérêt communautaire de la compétence optionnelle, compétence, construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire, développement de l'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt communautaire. Vu la délibération de la Comité de communes Rodez-Provence du 28 février 2023, approuvant le renouvellement de cette convention annexée à la note de synthèse, afin de garantir une réactivité dans la réalisation des petits travaux d'entretien à réaliser aux écoles, il est proposé au Conseil municipal d'approuver la convention de gestion en annexe visant à préciser les conditions dans lesquelles la commune de la Palue assurera la maintenance et l'entretien technique courant des équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire à compter du 1er avril 2023 pour une durée d'une année renouvelable une fois de manière expresse pour la même durée, d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention avec la CCRLP ainsi que toutes les pièces subséquentes.
Merci Madame Sauvadon. Y a-t-il des questions? Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous remercie. Cession de la parcelle communale cadastrée section A numéro 16-13 à Madame Jamila El-Bourchi et Monsieur Abdelhak El-Bourchi. Monsieur Gérard Miséréré.
Oui, bonsoir. Merci, monsieur le maire. Le conseil municipal est appelé à délibérer sur le projet de cession de la parcelle communale cadastrée section 1613 à Jamila El-Bourchi et Abdelhak El-Bourchi. Cette parcelle, ancien canal d'irrigation de la gare à la Gardie, est située dans le domaine privé de la commune en zone A du PMI. Les domaines estiment ce terrain à 1 euro le mètre carré, donc il est proposé à l'Assemblée d'approuver le projet de cession de la parcelle communale cadastrée 1613, d'une surface de 48 mètres carrés au prix de 48 euros. À monsieur et madame El-Bourchi, d'autoriser monsieur le maire à signer les actes notariés établis par maître Flandrin et de préciser que les frais d'actes et de géomètre seront à la charge des acquéreurs.
Merci monsieur Miséréré. Y a-t-il des questions? Observation? Aucune. Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous remercie. Session à la parcelle communale cadastrée section A numéro 16-14 à Madame Morgane Bouc et Monsieur Thomas Romieux. À la fin de la délibération, je demanderai à Monsieur Bouc de sortir parce qu'il ne prendra pas part au vote. C'est logique.
Oui, c'est la même chose. Donc le conseil municipal est appelé à délibérer sur le projet de cession de la parcelle communale cadastrée A 1614 à Morgane Bouc et Thomas Romieux. Cette parcelle, ancien canal d'irrigation de la Gardie, est située dans le domaine privé de la commune en zone A du PLU. Les domaines estiment ce terrain à 1 euro le mètre carré, toujours. Et il est proposé donc à l'Assemblée d'approuver le projet de cession de la parcelle communale cadastrée A 1614 d'une surface de 59 mètres carrés au prix de 59 euros à Morgane Bouc et Thomas Romieux. D'autoriser M. Blain à signer les actes notariés établis par Maître Flandrin et de préciser que les actes d'acte et de géomètre seront en charge des acquéreurs.
Y a-t-il des questions? Monsieur Bouc, vous, prenez votre veste, non? Vous n'allez pas voir. Il n'y a pas de questions. Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous remercie. Ça, il va prendre froid. Je vais prendre ma froid. Avant de passer à la dernière délibre, c'est un ancien canal, là où il y avait à l'époque un canal qui passait dans toute la Palue, voilà, qui était à la Palue, qui était à la commune, et donc il ne sert strictement plus à rien puisqu'il avait été plus ou moins démonté, et ça va faire agrandir les parcelles.
On a du mal à passer pour
nettoyer. Et on ne peut pas passer pour le nettoyer, tout simplement. Cession de la parcelle communale cadastrée, section A. Numéro 16-15 à Madame Andrea Cassado et Monsieur Romain Sibillo. Monsieur Miséréré.
Le conseil municipal est appelé à délibérer sur le projet de la cession à la parcelle communale cadastrée section A 1615 à Andrea Cassado et à Romain Sibillo. Cette parcelle, ancien canal d'irrigation de la Gardie, est située dans le domaine privé de la commune, en zone A du PLU. Les domaines estiment ce terrain à 1 euro le mètre carré. Il est donc proposé à l'Assemblée d'approuver le projet de cession de la parcelle communale cadastrée 1615, une surface de 65 mètres carrés au prix de 65 euros à André Cassado et à Romain Sibillo. Autoriser M. le maire à signer des actes notariés établis par M. Flandrin et de préciser que les frais d'acte et de géomètre seront à la charge des acquéreurs.
Merci M. Miséréré. Y a-t-il des questions? Aucune. Je passe au vote. Qui est contre? s'abstient, vote à l'unanimité. Avant de partir, veuillez penser à signer la feuille de marchement. Je vous souhaite une très bonne semaine. Dimanche, il y a la foire de la Palue, la foire de printemps de 9h à 18h, organisée par Madame Calgary. Virginie.